Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 80 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Dans ce chapitre, Lark & Rose montre en quoi voter est un acte d'agression. C'est bien différent de ce qu'on nous inculque, n'est-ce pas? Personnellement, j'aime beaucoup m'apercevoir quand un aspect de la réalité est différent de ce que j'ai toujours cru, parce que je me dis que ça va m'ouvrir des possibilités que je n'imaginais pas. Est-ce que vous êtes pareil? Voici la suite du livre. Excuse pour l'agression. Bien que la démocratie soit souvent présentée comme le summum de la civilisation, de la coopération et de l'entente, c'est exactement le contraire. Voter est un acte d'agression et aimer la démocratie revient à aimer la violence généralisée et les conflits permanents. Les élections politiques n'ont rien à voir avec le rassemblement, l'unité ou la tolérance. Elles servent à débattre de la manière dont chacun doit être contraint de se comporter et de ce qu'il doit être obligé de soutenir financièrement par l'intermédiaire de la machine de contrôle appelée gouvernement. L'abondance d'affiches de campagne avant chaque élection n'est pas le signe d'une société éclairée et libre, c'est le signe d'une société asservie mentalement et physiquement qui se chamaille pour savoir quel maître d'esclave elle veut voir tenir le fouet. Chaque personne qui vote, démocrate, républicain ou tiers parti, tente de mettre au pouvoir des personnes qui pratiqueront l'extorsion à grande échelle, taxation, pour financer divers programmes gouvernementaux. Tout candidat qui proposerait d'abolir complètement ce type de vol, en abrogeant toutes les taxes, serait ridiculisé et considéré comme un extrémiste cinglé. Tous les électeurs tentent de donner du pouvoir à un gang dont ils savent qu'il commettra des vols de masse, mais aucun d'entre eux n'accepte la moindre responsabilité à cet égard. Ils savent ce que leurs candidats feront s'ils sont portés au pouvoir. Ils savent quelles seront les conséquences pour tous ceux qui désobéiront aux ordres de ces politiciens, mais la croyance en l'autorité rend les électeurs psychologiquement incapables de reconnaître que ce qu'ils font est de pousser à la violence généralisée. En fait, en dépit de la mythologie et de la rhétorique traditionnelle, aucune personne qui croit au gouvernement ne souhaite réellement être administrée avec le soi-disant consentement des gouvernés. Si c'était le cas, cela signifierait que les préférences politiques de chacun ne s'imposeraient qu'à lui-même, à moins que d'autres ne défendent exactement le même programme. De toute évidence, l'objectif de l'électeur n'est pas de s'obliger à soutenir financièrement ce qu'il aime, ni de contrôler ses propres choix et comportements. L'objectif de chaque électeur est toujours d'utiliser le mécanisme du gouvernement pour contraindre d'autres personnes à faire certains choix, à financer certaines choses et à se comporter d'une certaine manière. En effet, l'individu étatiste a parfois une vision assez laxiste de sa propre obligation d'obéir à la myriade de commandements politiques, lois, estimant qu'il est compétent pour se fier à son bon sens et à son jugement indépendamment de la loi, tout en estimant que tous les autres ont besoin d'être commandés et surveillés par l'autorité. Il pense qu'il est lui-même digne de confiance et moral et qu'il peut prendre ses propres décisions, et que le but de la loi est de garder tous les autres dans le droit chemin. La mesure dans laquelle les différents électeurs souhaitent que l'autorité contrôle les autres varie considérablement. Le constitutionnaliste veut que le gouvernement fédéral oblige les autres à financer uniquement les choses spécifiquement désignées comme des questions fédérales par la Constitution des États-Unis. Le progressiste, en revanche, veut que le gouvernement oblige les autres à financer toutes sortes de choses, de la défense à l'art, en passant par la prise en charge des pauvres, l'éducation, les programmes de retraite, et ainsi de suite à l'infini. Mais si les deux types d'électeurs peuvent différer dans le degré et les types d'agressions qu'ils soutiennent, ils ne diffèrent pas sur le principe. ils ont tous deux accepté la prémisse selon laquelle l'autorité a le droit d'extorquer de force de l'argent pour les fonctions gouvernementales jugées nécessaires. Ils ne diffèrent que sur ce qui est considéré comme nécessaire. La pensée de presque tous les étatistes est paradoxale. D'une part, les étatistes savent que chaque loi qu'ils approuvent est un ordre soutenu par une menace de violence. Ils sont parfaitement conscients de ce qui est fait à tout contrevenant qui se fait prendre, mais l'étatiste moyen, lorsqu'on lui pose la question, niera avec véhémence qu'il approuve le recours à la violence contre ses voisins. D'un point de vue pratique, l'étatiste sait que tout programme politique qu'il soutient sera, s'il est adopté, administré par le niveau zéro, l'intimidation ou la force brute nécessaire pour obtenir l'assentiment du peuple. Pourtant, l'étatiste moyen, tout en étant pleinement conscient de cela, fera également preuve d'une énorme déconnexion logique, refusant d'admettre qu'il préconise ouvertement et directement l'extorsion forcée et le contrôle coercitif de millions d'innocents. La raison en est que l'étatiste croit que l'entité appelée « autorité » a le droit de gouverner et que, par conséquent, lorsqu'elle commet des actes de violence, ceux-ci ne sont pas à considérer comme de la violence. Tant que la violence est exercée par ceux qui se réclament de l'autorité, que l'on imagine exemptée des règles morales habituelles, ne pas voler, ne pas agresser, ne pas tuer, etc., même les plus ardents partisans des diverses taxes et autres lois peuvent continuer à s'imaginer être des personnes pacifiques, compatissantes et non violentes. Certains s'imaginent même être des pacifistes, parce que tout ce que fait le gouvernement se fait par la force ou la menace de la force, il n'existe pas et ne peut exister de pacifiste étatiste. Si tous les anarchistes ne sont pas des pacifistes, tous les vrais pacifistes sont anarchistes. Il existe de nombreuses façons, dont quelques-unes sont abordées ci-dessous, par lesquelles des personnes, par ailleurs décentes et vertueuses, tolèrent l'agression, l'intimidation et le vol, parce qu'elles croient qu'il est parfaitement permis à la divinité mythique surhumaine, connue sous le nom de gouvernement, de commettre de tels actes, et croient donc qu'il est parfaitement moral et vertueux pour elles de demander au gouvernement de commettre de tels actes. La charité par la violence. L'étatiste typique est porteur d'une profonde contradiction, étant à la fois totalement conscient et totalement inconscient du fait qu'il préconise personnellement l'utilisation généralisée de la violence contre les autres. Ce que ces personnes préconisent effectivement, en soutenant les programmes sociaux, c'est un racket d'extorsion massif, dans lesquels des millions d'êtres humains sont dépouillés de milliards de dollars sous la menace d'être mis en cage. Les partisans de cette charité par la violence s'imaginent qu'ils sont vertueux et bienveillants en raison de ce que les nécessiteux peuvent recevoir, tout en se dissociant complètement des menaces, intimidations, harcèlements, saisies forcées et emprisonnements qu'ils savent avoir lieu et être essentiels à tout programme d'aide sociale. En raison de cet étrange déni sélectif, ceux qui croient au gouvernement peuvent être totalement conscients de la force brute par laquelle de telles lois sont mises en œuvre, tout en étant apparemment inconscients du fait qu'ils approuvent eux-mêmes cette force brute lorsqu'ils exigent de telles lois. C'est la croyance en l'autorité qui permet cette étrange contradiction psychologique, car elle convainc les partisans des programmes de redistribution des richesses que les victimes d'extorsion légale ont l'obligation de coopérer, et que le recours à la violence contre ceux qui ne paient pas leurs impôts est donc justifié. En conséquence, la mesure fondamentale de la moralité et de la vertu est complètement renversée, les défenseurs de l'aide sociale se considérant comme compatissants parce qu'ils prônent le vol avec violence, tout en considérant comme des criminels méprisables tous ceux qui tentent d'éviter cette violence ou d'y résister. De même, les partisans de la sécurité sociale, un système de redistribution des richesses de type pyramide de Ponzi, s'imaginent qu'ils sont bienveillants et compatissants. Aveuglés par leur foi dans le gouvernement, ils ne reconnaissent pas que non seulement ils forcent les gens à participer à ce qui est faussement présenté comme un système de retraite géré par le gouvernement, mais qu'ils ajoutent l'insulte à l'injure en insinuant que les gens ne peuvent pas et ne devraient pas avoir confiance en leur capacité à planifier leur propre avenir. Il faut être sérieusement déconnecté de la réalité pour soutenir avec véhémence l'idée de contraindre les gens à participer à un programme d'investissement qui n'investit dans rien et ne possède aucun actif et dont le rendement est bien pire que celui de la plupart des investissements réels et qui, d'ailleurs, ne garantit aucun rendement. Et ensuite, ces gens sont fiers, pensant qu'ils sont nobles et charitables d'avoir forcé les gens à participer à un tel programme. Entre parenthèses, non seulement il n'existe pas de compte de sécurité sociale, individuel ou collectif, auquel on cotise, mais la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Fleming contre Nestor, 363 US 603, a clairement établi que personne n'a de droit contractuel à des prestations de sécurité sociale, quel que soit le montant des cotisations versées au système, et que le Congrès peut supprimer tout ou partie des prestations quand il le souhaite. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, les partisans de la brutalité.